Jérôme Thomas-Zébi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être l'invité de cette nouvelle émission de l'invité de la Tribune de l'Art. Alors, vous n'êtes pas encore très connu du grand public, mais vous allez le devenir parce que vous avez... Moi-même, je vous ai découvert très récemment, grâce à Michel Descours, à Michel Hilaire, qui m'ont signalé votre collection, qui est une collection que j'ai vue à Lyon, puisque vous allez nous raconter tout ça, mais c'est une collection qu'on peut visiter. Il y a une première exposition qui va bientôt se terminer, mais il y en aura d'autres avec votre propre collection, dans des locaux professionnels, vous allez nous dire exactement de quoi il s'agit. Et moi, j'étais ébloui par la collection, parce que c'est une collection de peintures essentiellement lyonnaises, vous nous direz pourquoi, c'est à Lyon. Et c'est une collection où il y a des centaines d'œuvres, et ce que j'ai vu est d'une qualité tout à fait remarquable. Donc voilà, peut-être que vous pouvez vous présenter d'abord, dire qui vous êtes, comment vous avez découvert l'art et pourquoi vous avez commencé à faire cette collection.
Voilà, je suis Jérôme Thomas-Zébi. Je vous remercie de m'inviter et de ces compliments, ça me fait très plaisir. Je suis lyonnais. Et quand j'étais jeune, j'allais souvent au Musée des Beaux-Arts, qui était à l'époque gratuit, et il y avait un étage complet qui était réservé aux Lyonnais à l'époque, le premier étage du musée. Et j'ai tombé en admiration devant ces tableaux, devant les Carans, les Raviers, il y avait la salle des Vernets, et puis ça continuait jusqu'à l'époque moderne de l'époque. Bon, ça remonte à quelques décennies maintenant. Et puis voilà, quand il y a eu la rénovation du musée, en fait, tous ces tableaux ont été enlevés. Aujourd'hui, c'est la librairie, la cafétéria, etc. Donc, et une grande partie de ces tableaux, en fait, ont disparu. Puis après, j'ai travaillé, j'ai grandi, j'ai créé mon entreprise, j'ai été extrêmement pris. Mais j'ai toujours eu la passion de la peinture. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait visiter tous les grands musées, à New York, Boston, enfin aux États-Unis il y a de magnifiques musées, mais aussi en Angleterre, à Paris, en France, etc. Donc j'ai toujours eu cette passion pour la peinture. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais qui étaient ces peintres que j'avais aimés et dont je ne sais plus, dont je ne retrouve plus rien, etc. Et j'avais quelques noms en tête, mais c'était très vague pour moi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder les enchères, à aller voir les galeries. À l'époque, la rue Auguste Comte, il y avait encore beaucoup de marchands de peinture.
C'est-à-dire quelle époque ?
Alors, on est dans les années 2000, voilà, il y a un peu plus de 20 ans. Et bon, j'avais créé mon entreprise en 95, donc je commençais à avoir un peu plus de sous. L'entreprise fonctionnait bien. Et voilà. Et donc, puis j'ai eu un problème de santé important qui m'a un peu immobilisé. Et donc, ça m'a fait un peu réfléchir sur la façon dont je vivais, où je travaillais 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Et je me suis dit, mais il faudrait peut-être un peu lever le pied et revenir un petit peu à des choses plus... Enfin, sortir un petit peu de la monomanie du travail. Voilà. Donc, et c'est là où j'ai repensé à cet étage, à ces tableaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai commencé à fréquenter... les galeries, regarder un petit peu à l'époque Internet, ça n'existait pas trop pour ce genre de choses, et les salles des ventes, puisque à Lyon il y avait un marché de la peinture lyonnaise, on va dire, entre les réseaux de galeries et puis des salles de vente à Lyon, qui voilà. Et petit à petit, j'ai retrouvé les Carans, les Raviers, les Vernets, et j'ai petit à petit tissé le fil entre tous ces peintres, parce que finalement, c'était une histoire que je redécouvrais, l'histoire de ma ville, mais aussi l'histoire du pays, des différentes influences qui peut y avoir, et puis l'histoire de ces peintres qui sont tous élèves les uns des autres et qui sont corrélés. Voilà. Et alors, surtout au départ, j'ai surtout collectionné les peintres du XXe, les différents mouvements lyonnais, donc les Ignares, le groupe Témoignages, etc., les élèves de Glaise qui sont assez nombreux à Lyon, etc. Et voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça, sur le 20e, en fait.
Et juste pour préciser, votre société, elle fait quoi ?
Alors, ma société, c'était parce que je l'ai vendue il y a 2 ans, c'était une société de conseil pour qui était spécialisé pour les industries de la santé, alors la conformité réglementaire pour les industries de la santé. Alors, c'est très barbare. Mais grosso modo, on travaillait pour tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Et c'est devenu une grosse société, puisque j'avais 650 consultants. Et ça m'occupait beaucoup. Et voilà. Et puis, j'ai décidé, fin 2020, de la céder. Parce qu'il fallait encore beaucoup la développer. Enfin, il y a un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose. Et puis, j'avais une autre société d'édition logicielle qui me passionnait et qui... j'avais un petit peu fait le tour de l'autre société et où il y a énormément de choses à faire. Et je trouvais que... Voilà, je voulais me recentrer sur la partie logicielle et la partie peinture. Donc, j'ai cédé. Et ce qui m'a donné les moyens... d'investir fortement dans la partie logicielle et puis aussi fortement dans ma collection avec l'idée de créer un lieu qui soit qui permette à la fois d'exposer les tableaux mais aussi de les partager et pas seulement de façon muséale mais aussi de pouvoir faire en sorte que les gens puissent vivre dedans. Enfin, donner l'idée un peu de ce que vit un collectionneur. Un collectionneur, il vit avec ses tableaux. Et quand on visite une exposition, ben, en fait, on ne fait que passer. Et puis, au bout d'un moment, on ne voit plus rien parce qu'il y a beaucoup de tableaux, etc. Alors que quand on vit avec les tableaux, on peut s'imprégner des tableaux. Donc, de privatiser le lieu, de faire des... Donc, j'ai fait des salles de réunion qui sont pleines de tableaux. Et puis, aussi des espaces où on peut se réunir, manger, boire un verre, etc., Et se retrouver et passer du temps.
Voilà. Donc, c'est effectivement, moi j'ai visité cette collection, comme je le disais. Effectivement, c'est à la fois, il y a des bureaux, et dans les bureaux, il y a des tableaux. Et ça peut être un peu comme d'ailleurs, comme ici à Tribune de l'Art, où il y a quelques tableaux dans les bureaux.
Il y en a beaucoup.
Moins que chez vous et de moins grande qualité, certainement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est agréable de vivre parmi les tableaux. Et donc, on peut louer. Donc, quelqu'un peut venir et louer ça pour une journée de travail, deux journées, trois journées, etc. C'est comme ça,
Voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de groupes, soit d'entreprises aujourd'hui, soit d'associations, qui louent l'espace, plutôt en soirée d'ailleurs. Et avec qui on fait une partie visite guidée, et puis après ils font leur réunion entre eux, voilà, il y a beaucoup de groupes de gens en fait, et ils sont très contents.
Et alors j'ai vu beaucoup d'œuvres, ça, actuellement c'est donc cette exposition de tableaux essentiellement, mais vous avez encore beaucoup qui ne sont pas exposés de tableaux par rapport à ce que vous possédez ?
Alors on expose un peu moins de 200 tableaux, ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est beaucoup, oui.
Et la collection, elle compte plus de 2000 œuvres, dont à peu près 400 dessins, 4 ou 500 dessins.
Donc c'est énorme, 1500 tableaux, donc là vous exposez... Même pas un septième de votre collection de
tableaux. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on va faire tourner. Donc, l'exposition actuelle, elle dure jusqu'à, on va dire, fin février, début mars. Et puis ensuite, on est associé au Salon du Dessin. On va faire pendant 2 mois, mi-mars jusqu'à au mois de mai, sur le dessin. Là aussi, il va y avoir à peu près 200, 250 dessins qui vont être exposés. Sur le thème lyonnais, exclusivement des dessins lyonnais, même si la collection, elle comporte pas mal de dessins en dehors de Lyon. Et ensuite, on va raccrocher à nouveau l'exposition actuelle jusqu'à septembre, parce que le lieu, on l'a ouvert le 22 novembre, donc il y a du monde qui la voit, mais finalement, je vois tous les jours de plus en plus de gens qui viennent.
Et j'espère des lecteurs de la Tribune de l'Art qui prendront connaissance de votre... De l'existence de cette collection et viendront la voir dans les prochains mois et les prochaines semaines déjà pour les dessins.
En fait, on a un bouche à oreille qui est extraordinaire parce que le lieu est un petit peu situé au fin fond de Lyon, pas au fin fond de Lyon, mais à Vez.
C'est assez praticable par les transports en commun.
C'est à côté
de
la gare.
À Lyon, les bus marchent mieux qu'à Paris.
Et puis on est à côté du métro et de la gare de Vez, donc c'est assez facile d'accès. Et je vois la fréquentation double toutes les semaines, en fait. Donc
Et c'est gratuit ?
Non.
C'est payant ?
C'est payant, mais oui, parce que le lieu est quand même très grand.
Bien sûr, non, vous avez dit qu'il y a aussi les moyens de financer votre...
C'est ça.
Les lieux qui sont grands, et donc vous louez ça. Et donc l'entrée est à combien, alors ?
Est à 10 euros.
10 euros, ce qui est raisonnable par rapport à une collection comme celle-ci.
Oui, on veut quand même que ce soit accessible. Mais c'est vrai que le lieu est grand, c'est tout neuf, on l'a acheté. On l'a complètement, j'allais dire designé, mais, conçu pour l'exposition et puis aussi le côté convivial, privatisation. Donc c'est un gros investissement quand même. Voilà, il faut que, et puis ben, on a embauché du personnel, donc il faut le payer. Mmh.
Et donc cette collection, vous dites que vous la, elle est lyonnaise, mais pas uniquement. Et alors parlons d'abord de la collection lyonnaise, l'aspect lyonnais. Vous avez dit pourquoi vous vouliez faire cette collection lyonnaise. Donc ça va effectivement, au départ vous avez commencé par le 20e, moi j'ai vu beaucoup de 19e et du bon 19e, et maintenant du 18e et du 17e.
Absolument.
Alors par exemple, je regardais là sur mon iPhone, j'ai pris beaucoup de photos, les photos de toutes les œuvres d'ailleurs, sachant qu'il y a un catalogue qui a été édité. Donc Stella par exemple, vous avez des œuvres de Jacques Stella.
Oui.
Vous avez combien de Stella?
J'aurais pas dire de bêtises, mais au moins 4 ou 5.
4 ou 5. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 2 qui sont exposés.
Il y en a 2 qui sont exposés voilà. Actuellement.
Dont La naissance de la Vierge.
Oui. Oui. Qui est un magnifique petit tableau sur cuivre.
C'est un modèle pour un tableau qui existe ou est-ce que...
Pas à ma connaissance, mais c'est un petit bijou.
Oui, je l'ai sous les yeux, il est vraiment très beau, je le mettrai en photo sur la Tribune de l'Art. Et le deuxième tableau que je dois retrouver de Stella, je l'ai vu... Une Vierge à l'enfant, c'est ça.
Qui
oui,
est
tout
absolument
à fait.
Merveilleuse, qui est d'ailleurs reproduite sur le catalogue en couverture et qu'on sert un petit peu d'image iconique pour la collection.
Alors vous avez des Crétès également?
Alors, on a des Crétais, oui, bien sûr.
Peintre lyonnais, bien sûr, pour lequel il y a une exposition au Musée des Beaux-Arts il y a
quelques années.
Vous aviez prêté des œuvres à cette...
Non, parce que je n'en avais pas à l'époque.
Pas encore.
Et en fait, pour tout vous dire, c'est quand j'ai vendu ma société, j'ai eu un peu plus de moyens, parce que Crétais, c'est un peu plus cher que la moyenne. Mmh. Et voilà, et donc j'ai acheté un certain nombre de Crétais. J'en expose un petit actuellement, mais j'ai... un certain nombre de Crétais qui sont assez, assez sublimes.
Et que vous montrerez quand, ces Crétais ?
Je les montrerai en septembre, parce que c'est très difficile. J'aurais voulu tout montrer, mais c'est impossible de tout montrer. Il y a tellement de... Alors, c'est un peu prétentieux, mais de belles choses. Voilà, c'est comme les Thomas Blanchet. J'en montre actuellement 2. Là, je viens d'en accrocher un troisième assez impressionnant. Mais j'en ai beaucoup plus à la maison.
Alors, donc, Blanchet, il y a des peintres assez rares. Horace Leblanc, c'est compliqué d'avoir un Horace Leblanc parce qu'il y a très, très peu de peintures d'Horace Leblanc qui subsistent.
Mais j'en ai pas.
Vous n'avez pas. Mais on ne voit pas passer, en fait. Vous n'avez...
Non, mais je ne désespère pas d'avoir. J'ai ça à Rabat, par contre.
Oui. Il y a une exposition également au musée de Bourg-en-Bresse. Si
c'est ça. Il y a une quinzaine d'années... Ouais. Et dont j'ai le catalogue, et c'est très très beau. Oui.
Alors,
il est un peu plus tardif.
18e, qu'est-ce qu'il y a comme...
Il est mi-17e, mi-18e, il est entre les deux. En fait.
Et des peintres lyonnais du 18e siècle, quels sont les grands peintres lyonnais du 18e
alors,
siècle?
Alors, on a Hennequin, bien sûr, qui était proche de David.
Philippe Auguste Hennequin, c'est voilà, ça. Vous avez.
Oui, j'ai plusieurs Hennequins, dont un très beau qui est exposé, un portrait à la fin de sa vie quand il est en Belgique. Alors, bien sûr, Grobon, Bergeon,
Antoine Bergeon, qui est un artiste magnifique, qui peint beaucoup de nature morte.
Absolument. Beaucoup de Boissieu.
Oui, Jean-Jacques de Boissieu.
Des dessins, pas des lithos, parce que je n'achète pratiquement pas de lithos, mais uniquement des dessins ou des peintures.
D'accord. Donc ça c'est la peinture ancienne, mais la peinture ancienne vous avez également, moi j'ai vu dans votre, qui n'était pas vraiment exposé, il était dans un coin dans un bureau, mais c'est un superbe Régnier, Nicolas Régnier que vous avez acheté, alors peut-être que c'est l'occasion d'ailleurs de saluer Michel Descours, ce grand marchand lyonnais qui maintenant est parisien, et chez qui vous avez acheté beaucoup de choses, et vous achetez beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup de lyonnais.
Ah, il a beaucoup de lyonnais parce qu'il a la passion pour les peintres lyonnais, il a un goût très sûr. Effectivement, j'ai acheté ce Nicolas Régnier. Alors, en fait, c'est aussi lié à mon histoire avec le Musée des Beaux-Arts, puisque le Musée des Beaux-Arts de Lyon a un magnifique Nicolas Régnier que j'ai toujours admiré, parce que quand j'allais au Musée des Beaux-Arts, je ne faisais pas que le premier étage et les Lyonnais, j'allais bien sûr voir les Rubens et les 17e français. Et il y avait ce Nicolas Régnier qui était absolument splendide. Je crois qu'ils avaient acquis d'ailleurs à cette époque quand j'étais adolescent, parce que j'avais à peu près 15 ans hein, quand je me suis entiché de tout ça. Et c'est toujours resté dans les yeux. Voilà. Et puis quand j'ai vu chez Michel ce tableau, j'ai craqué, j'ai dit, j'ai toujours admiré ce peintre. Et puis c'est vrai qu'actuellement, j'achète un certain nombre de tableaux du 17e et j'adore cette période. Alors, pas forcément lyonnais d'ailleurs.
Pas forcément lyonnais. Par exemple, je sais que quand je vous ai vu la première fois, on a parlé de vos acquisitions, vous achetez quasiment une œuvre par jour. Enfin, peut-être pas une œuvre par jour, mais beaucoup, beaucoup.
Oui, beaucoup, beaucoup. je suis pas connu du grand public. C'est vrai qu'avant l'ouverture le 22 novembre, j'étais resté extrêmement discret. Alors, je prêtais régulièrement des tableaux à des musées, mais de façon, on va dire, discrète. Mais par contre, j'étais connu des marchands, des salles de vente. Donc, quand il y avait des choses qui étaient... Eux connaissaient ma collection et savaient un peu ce que je recherchais. Donc, voilà, donc j'ai un flux d'informations assez important avec des marchands que j'ai sélectionnés, donc vous parliez de Michel Descours en particulier, voilà, et qui fait que voilà, je suis toujours un collectionneur passionné et maladif peut-être.
Tous les collectionneurs sont un peu malades, je le sais, je suis moi-même, on est tous un peu obsédés.
Voilà, et donc voilà, alors, je suis très sélectif dans mes choix. Mais je trouve que l'école lyonnaise, qui est méconnue jusqu'à présent, elle a vraiment des très très beaux peintres, sur toutes les époques d'ailleurs.
On reviendra sur le 19e, oui. Qui m'intéresse beaucoup aussi.
Oui.
Mais,
oui.
Donc, beaucoup de peintres, mais pas uniquement, donc, pas uniquement de la peinture lyonnaise, du coup, en ancien.
Alors, en ancien, oui, j'aurais pas trop de dévoiler, mais bon, il y a des grands noms du 17e qui sont en train d'arriver et que je montrerai certainement un peu plus tard. Et pour l'instant,
Vous ferez peut-être une exposition hors Lyon, peut-être, une exposition qui sera consacrée à vos œuvres hors Lyon en peinture, peut-être ?
Oui, parce que en peinture et en dessin. Parce que sur le dessin, je suis beaucoup plus éclectique.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, donc même dans l'exposition qui va venir en même temps que le salon du dessin, vous montrerez des œuvres qui ne sont pas lyonnaises ?
Non. Je ne montrerai que des Lyonnais.
Ah, que des Lyonnais, d'accord.
Parce que je crois qu'il y aura à peu près 250 dessins qui vont être exposés. Il y a, à ma connaissance, jamais eu d'exposition de dessins lyonnais consacrés au dessin, ni d'ouvrages consacrés au dessin lyonnais. Là, on commence au 18e jusqu'à nos jours. Et ça va être un gros on fait un catalogue d'ailleurs qui va être un gros catalogue, je pense qu'il va faire plus de 250 pages, avec des Flandrins, des Jean Maux, des Orcel, des Bergeons, des Grosbons, enfin il y a alors ça pour les anciens, et puis de toute l'école moderne aussi de Lyon.
Alors est-ce que vous ferez, parce que c'est pas une critique vraiment, parce qu'objectivement, c'est tellement formidable de montrer votre collection que... Mais le catalogue que vous avez fait, là, est un catalogue purement illustratif, qui montre les tableaux, et c'est déjà formidable, parce que c'est des tableaux qu'on ne connaissait pas, pour la plupart. Est-ce que vous allez évoluer, peut-être pour la prochaine exposition, vous parlez d'une grosse exposition, avec des notices, peut-être, parce que, ce qui est lourd à faire, bien sûr, ce qui est compliqué à faire. Encore une fois, ça serait un musée, je vous dirais, voilà, c'est un catalogue, il n'y a pas de notice. Ce n'est pas un musée, donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. On est beaucoup plus indulgent pour des... Mais c'est vrai que ce serait peut-être bien un jour que vous puissiez faire un travail de catalogaphie sur cela.
Oui, alors, bon, on a quand même une très belle introduction sur le catalogue de Michel Hilaire.
Michel Hilaire, donc le directeur du musée Fabre.
Le directeur du musée Fabre, qui a aussi découvert la collection et qui a été très étonné... à la fois de voir la qualité et la quantité de la collection. Et puis aussi, pour le dessin, c'est Serge Lemoine qui va nous faire l'introduction.
Ancien directeur du musée d'Orsay.
C'est ça, et qui a fait un texte magnifique. Et je suis très touché parce qu'il a... Il a commenté beaucoup de dessins avec beaucoup de passion. C'est vrai qu'on va présenter des puvis de Chavannes, on va présenter des choses un peu importantes. Et voilà, alors... Aujourd'hui, on démarre. Hein. On a commencé le 22 novembre. L'équipe se constitue. Donc aujourd'hui, on est en train de recruter des historiens de l'art pour justement pouvoir étoffer un petit peu les notices et aller un peu plus loin dans la recherche.
Quand vous dites recruter des historiens de l'art, c'est-à-dire que vous recrutez des historiens de l'art de manière ponctuelle ou
à non, non, on va créer un poste
d'accord.
Pour... en fait, comme le développement est assez rapide
oui.
Et qu'il y a de plus en plus de gens qui à la fois viennent visiter et à la fois viennent, on va dire, louer les salles, bah là, on est obligé de recruter un peu plus de monde et donc on va pouvoir diversifier un petit peu et d'avoir une personne qui soit plus histoire de l'art et qui va pouvoir se consacrer aux notices et de faire un peu plus de recherche sur les tableaux.
Et est-ce que vous avez déjà quelqu'un, trouvé quelqu'un ou pas ?
Mais là, on est.
Parce que vous réalisez que ça va être écouté par quelques historiens d'art et comme malheureusement c'est une profession qui parfois a du mal à trouver. Vous risquez d'avoir quelques... Enfin, j'espère d'ailleurs pour vous que vous aurez quelques candidatures suite à cette émission.
On a déjà quelques candidatures, oui.
Je me doute.
Le poste n'est pas pourvu pour l'instant, donc toutes les candidatures sont les bienvenues.
Aujourd'hui. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit spécialisé dans la peinture, dans le dessin, dans la peinture de l'art, c'est peut-être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se...
Oui, bah après, en histoire de l'art à Lyon, il y a des formations un petit peu sur le régional, ouais. Mais ce qui... On a quand même une belle documentation aussi, et puis ça fera partie aussi du poste de s'intéresser et d'être curieux, parce que... voilà, on a j'ai acheté à peu près tous les ouvrages que je trouvais sur la peinture depuis les ouvrages qui sont parus depuis le 19e sur la peinture lyonnaise, donc on a un certain nombre de documentations sur le sujet. On a de très bonnes relations avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon qui nous ont proposé leur aide, justement que eux ils ont une documentation très fournie sur la peinture lyonnaise en particulier, la peinture en général. Et voilà, donc il y a une collaboration fructueuse avec le Musée des Beaux-Arts, et ça, je les en remercie beaucoup, parce qu'ils ont proposé vraiment très gentiment leur aide pour justement la partie documentation, la partie recherche. Et voilà. Alors, c'est vrai que le prochain catalogue de dessins sera sur le même principe que le premier catalogue, c'est-à-dire que en même temps, c'est surtout un catalogue d'illustration, c'est-à-dire qu'on veut montrer les œuvres, il y aura assez peu de textes, et on espère que ça va susciter l'intérêt et l'enthousiasme, et puis ensuite, on creusera un peu plus l'aspect...
Encore une fois, ce n'était pas vraiment un reproche, parce que vous commencez, et que vous aurez tout le temps ensuite d'approfondir cela, et que ça permet déjà au moins de connaître les œuvres et de les avoir reproduites, ce qui est très important. Vous pensez, vous aurez un site internet où vous
oui,
avez...
Oui, il y a le site internet thomaselicollection.com.
Avec les œuvres reproduites ?
Avec un certain nombre d'œuvres. En fait, il y a en général une œuvre par peintre. Alors, tous les peintres ne sont pas présents, mais il y a pas mal de choses déjà sur le site, avec des biographies qui sont dessus, en général par peintre. Donc ça donne déjà un peu de référence. Ça nécessite encore beaucoup de travail. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Oui. Mais le site donne une bonne idée de la collection.
Alors revenons sur la collection elle-même et sur le 19e siècle, parce que le 19e siècle, c'est peut-être quand même le grand siècle... Enfin, il y a bien sûr des très grands peintres au XVIIe, au XVIIIe, on l'a vu, mais le XIXe siècle a vraiment une école lyonnaise tout à fait étonnante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette école lyonnaise du XIXe, des artistes que vous préférez, des artistes qui sont les points forts dans votre collection, des artistes peut-être qui vous manquent, enfin, voilà, parlez-nous du XIXe siècle qui est très présent dans votre collection.
L'école des Beaux-Arts de Lyon a été fondée en 1806, avec pour but d'ailleurs de fournir des dessinateurs pour ce qu'on appelait la fabrique, donc les soyeux, pour la soierie. Et donc l'école de fleurs, la classe de fleurs était une classe très importante, et c'est pour ça qu'à Lyon il y a toute une historique et une importance sur les peintres de fleurs, avec un des premiers professeurs qui est Bergeon, et qui a formé toute une génération. Donc il y a un fil rouge dans l'exposition sur ce thème-là, puisque le premier professeur c'était Bergeon, le second c'était Thiria. Ensuite, on a eu pendant très longtemps Jean-Marie Régnier. Après, il y a eu Castex-Desgranges, etc. Donc, on montre un petit peu cette école et la richesse qu'il y a et tous les talents qui sont sortis. Puis, parallèlement à ça, il y a quand même les deux premiers professeurs importants de l'école des Beaux-Arts. Ça a été Fleury Richard et Révoil, donc qui sont des peintres que j'adore. Troubadour, élève de David, et qui ont même appris à leurs élèves la rigueur du dessin et une exigence artistique importante. Et donc, il y a d'autres peintres que des fleuristes, si j'ose dire, qui sont sortis. Alors, les Flandrins, Orcel, Jacomin, tous ces peintres du début du 19e siècle, qui ont fait des carrières importantes, hein, puisque les frères Flandrins, c'est quand même des peintres qui dépassent largement le Lyon, Orcel aussi. Voilà, donc ça, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup et qui sont bien représentés. Donc les troubadours comme Genot, là, vous avez pu apprécier le Christ en croix, mais il y a un magnifique aussi... prisonnier qui dont sa femme descend dans le cachot l'enfant, peut-être vous l'avez pas vu à ce moment-là.
Je ne sais pas, ça me dit rien. Je me rappelle du Christ en croix. Ouais. Enfin, Michel Genoux, en tout cas, était un des bons peintres, des grands peintres lyonnais de l'époque.
Oui,
c'est sûr.
Oui, voilà. Donc tous les troubadours. Après, on a les peintres comme Pierre Charles Comte, qui a un magnifique tableau sur la reine d'Écosse qui embrasse le poète Chartier. Voilà, donc sur tout le 19e, on couvre tous les peintres du 19e, sur tout le spectre. Avec alors un peintre que j'apprécie beaucoup qui est Freinet, qui est un peintre un peu maudit et qui... qu'on redécouvre aujourd'hui et qui suscite un intérêt très important parce que c'est profondément original.
Je pense que ce n'est pas révéler un secret que de dire sur le stand de Michel Descours au moment de Paris Fine Arts qu'il y avait un sublime Freinet qui est chez vous, que c'est vous qui l'avez acheté.
Oui.
Vraiment un tableau, le Christ, la tentation du Christ.
La tentation du Christ qui est en fait un tableau qui a été préparatoire pour l'église de Charlie. Puisque la fresque existe encore à Charlie.
Elle existe encore.
Oui. Alors, il a eu des malheurs puisqu'il avait fait les fresques de la crypte des Nez qui ont été effacées pour... on ne sait pas. Enfin, Freinet avait des tendances de gauche un peu sociales, etc. Et on dit que ça avait heurté un certain nombre de gens. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont effacé très tôt son grand malheur... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Freinet s'est mis à la photographie en 1850 pour photographier ses fresques. Et il est devenu un grand photographe. Et puisqu'aujourd'hui, on voit sur le marché, d'ailleurs, ses tirages photographiques coûtent plus cher que ses tableaux aujourd'hui. Enfin, coûtaient, parce que maintenant, on ne peut plus dire ça sur ses tableaux, qui commencent à être recherchés par les plus grands musées. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'acquérir un grand, grand nombre de plaques photographiques de Freinet. Et on va pouvoir, et c'est absolument sublime, et on va pouvoir montrer...
Vous ferez des tirages alors de ces plaques ?
Je ferai des tirages, et on fera une expo Freinet en 2024.
Alors, je ne savais pas du tout qu'il faisait partie de ces peintres photographes, il y en a beaucoup d'ailleurs à l'époque.
Oui, alors, mais on dit que en fait, Freinet a une importance... majeur dans la photographie, et pour ça Corset en a acheté un certain nombre, parce que c'est lui qui a inventé le portrait psychologique. C'est-à-dire qu'avant Freinet, les gens faisaient de la photo de souvenirs, on va dire. Alors que lui a fait de la photo comme un artiste, c'est-à-dire qu'il a fait poser les gens et essayer de révéler l'âme. Et Nadar s'est inspiré, dit-on, des tirages de Freinet pour effectivement dire « mais en fait, la photo, ce n'est pas qu'un portrait, c'est aussi révéler une âme, une psychologie, une façon de voir les choses ». C'est pour ça que les portraits de Nadar ont tellement marqué leur époque, mais les portraits de Freinet sont sublimes.
Alors, Freinet également, ce que j'ai découvert, parce qu'il y a un livre qui est paru sur Freinet,
oui.
Sculpteur. Est-ce que vous avez des sculptures de Freinet ? C'est très rare, ça.
Alors, je n'ai pas de sculpture de Freinet, mais j'ai un ami collectionneur qui possède une sculpture incroyable de Freinet.
La flagellation, c'est ça ? Non, c'est pas... C'est celle qui est reproduite dans le livre ou pas ?
Oui, oui, c'est c'est Saint-Agathe.
Oui, c'est Saint-Agathe, c'est ça.
Voilà, c'est Saint-Agathe parce qu'il possède d'ailleurs le tableau, c'est un tableau gigantesque, où on voit d'ailleurs Freinet en autoportrait avec un regard accusateur.
Et au point de vue sculpture, on n'est pas de sculpture ?
Si. Alors, c'est Je suis un jeune collectionneur de sculptures.
Mais enfin, à l'allure où vous allez, très rapidement, vous aurez une très belle collection.
Si vous avez comme
les tableaux et les dessins.
J'ai un très joli de Sermesy qui est arrivé, qui était une élève de...
Même de Sermesy, Clémence de Sermesy. Clémence Sophie de Sermesy, je crois. Elle s'appelle,
élève de Chinard. Voilà, il y a un certain nombre de sculptures qui commencent à arriver. C'est un peu nouveau. Parce que, bon, il faut dire que jusqu'à présent... je n'avais que ma maison, même si elle est grande, donc c'était déjà compliqué. Mais là, avec le lieu, ça se prête bien à la sculpture et petit à petit, on va enrichir les lots sur la partie sculpture.
Alors, des artistes, par exemple, là, je regarde sur mon téléphone, par exemple, des artistes, c'est vrai que le 19e siècle est tellement extraordinaire, j'ai beau bien connaître cette période, je découvre tous les jours des artistes intéressants que je ne connaissais pas, ou alors que je connaissais et que j'avais rencontré, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Par exemple, Joanny Domer.
Ah oui.
Alors... Là, il y a un très beau tableau, le départ de la croisade, c'est vraiment magnifique. Hein.
Oui.
Donc, qui est cet artiste ? Est-ce que vous avez plus de choses ou est-ce que finalement c'est un nom que parmi les autres ?
Joanny Domer, il faisait surtout des décors pour les monuments. Alors, si c'est lui qui a fait le plafond de la préfecture, du grand salon de la préfecture. Donc, on a assez peu d'huile. En tous les cas, on en trouve très peu. Sur des huiles, des tableaux de chevalet. Par contre, il y a un certain nombre de fresques monumentales qu'il a réalisées et qui sont extrêmement belles. Donc, on a beaucoup de ces peintres lyonnais, hein, les Flandrins, Orcel, tout ça, qui étaient occupés principalement à faire des fresques pour les églises ou les monuments. Hein.
Qu'est-ce que je... Comme artiste, là, pardon, oui, vous avez un artiste qui n'est pas complètement lyonnais, celui-ci, son nom m'échappe, je vous le montre et vous allez vous rappeler, c'est l'artiste Chambéry.
Alors, c'est Laurent Pécheux.
Laurent Pécheux, c'est ça, bon, voilà. Son nom lui échappe, alors qu'il y a une exposition que j'ai vue, dont j'ai parlé sur la Tribune de l'Art, Laurent Pécheux, voilà.
Oui, alors c'est un bijou, ce tableau. Le...
Mais Laurent Pécheux est vraiment d'origine, né à Lyon ou il est...
Je crois qu'il est né à Annecy. Hein,
c'est pas Chambéry, c'est Annecy.
De mémoire.
Voilà, oui.
Ça, c'est j'ai pas révisé avant.
C'est le Rhône-Alpes, en fait.
Oui, oui, oui. Alors, vous savez, Lyon, on voit large. Parce qu'il y a des peintres de l'Isère, des peintres...
De Grenoble, par exemple.
De Grenoble, bien sûr.
Pillard, oui. Jacques Pillard.
Alors, il est de Vienne, en dessous de Lyon.
Oui, c'est ça.
Ça a été un élève d'Ingres. Il y a un magnifique portrait très ingresque d'une très jolie jeune fille... qui est exposé dans et c'est un peintre qui a passé la grande partie de sa vie en Italie. D'ailleurs, c'est une caractéristique de beaucoup de peintres lyonnais, c'est que beaucoup sont partis en Italie, beaucoup sont restés longtemps en Italie, donc leurs œuvres sont assez peu disponibles en France. Donc c'est le cas de Pillard, mais c'est le cas déjà dans les anciens, de Stella, de Créteil, mais aussi des gens comme Flacheron, par exemple, qui ont passé la majeure partie, ou Fleury Épina, dont on va montrer beaucoup d'œuvres. Ça va être une découverte, je pense, pour beaucoup de gens, parce que peu de gens...
Vous avez monté dans les dessins ?
Dans les dessins, oui. Oui, oui, parce qu'on a un magnifique dessin de Fleury Épina, ça va être un peu une surprise. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Michel Hilaire quand il a fait son exposition Laurent Gauffier. Ils avaient repéré que j'avais des dessins de Fleury Épina.
Louis Gauffier. Oui.
J'ai dit...
Laurent.
Ah, non.
Ça arrive à tout le monde.
Bon, oui. La langue m'a fourché. Et justement, Épina a aussi dessiné l'abbaye de Vallombrosa. Et voilà, donc il l'avait mis dans le catalogue. Ouais. Et du coup... Je crois que Michel Hilaire est devenu un passionné de Épina aussi.
Ce qui est intéressant avec le Lyonnais, c'est qu'il y a tout. Il y a des paysages, beaucoup.
Oui.
Il y a des natures mortes, on l'a dit, oui. Hein, liées à la colle de Soiry. Les paysages, par exemple, vous avez... là, par exemple, je suis devant un très beau Paul Flandrin. On a parlé des Flandrins, mais c'est vrai que
Paul
Flandrin est un grand paysagiste.
Oui.
Paysage
il y a Pontus Signé. Alors, il y a énormément, effectivement, de paysagistes. Ça, sur le 19e, ça continue jusqu'à Caron Ravier. Puis il y a Appian, bien sûr, il y a de très beaux Appian, qui est un peintre lyonnais qui a eu quand même son heure de gloire importante hein, au 19e. Des peintres plus rares comme Guindrand, parce qu'il est mort relativement jeune, mais c'est absolument sublime. Alors d'ailleurs, le paysage lyonnais, Lyon a trois grandes influences, on va dire. Il y a une influence italienne, puisqu'ils sont beaucoup sont partis, beaucoup sont élèves d'Ingres. Hein. On parlait de Dumas tout à l'heure. Beaucoup d'élèves d'Ingres, évidemment les frères Fendin.
Parlait de Dumas avant l'émission.
Oui, avant l'émission, oui.
Michel Dumas.
Freinet, etc. Et donc il y a une influence importante de l'Italie, mais il y a aussi une influence importante du Nord, de la Flandre et de la Hollande, puisque bah, avec l'école de Fleurs, ça a inspiré beaucoup de techniques hollandisantes. Donc les troubadours, c'est une technique un peu hollandisante. Et les paysages aussi, il y a notamment un paysage de Guindran qu'on pourrait penser de Ruisdael. Donc il y a une grosse influence. Puis évidemment, il y a une influence française non négligeable.
Alors parlons de ce qui, moi, me touche moins, je dois le dire, c'est vrai, la Tribune de l'Art s'arrête aux années 30, mais c'est vrai que, en dehors de l'art déco, le modernisme me touche moins, ça c'est certainement un défaut que j'ai, mais on en parle quand même, ça, on va jusqu'aux années 30, et puis parlons, puisque nous sommes là, de tout le XXe siècle à Lyon, oui. Que je connais mal, alors est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus aussi sur le XXe siècle là? Je ne vois pas vraiment vous relancer là-dessus, parce que je suis vraiment très très mauvais, j'ai découvert avec votre collection beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas.
Oui.
Voilà, donc.
Alors, il y a eu. Alors, dans le 20e à Lyon, il y a eu un peu des mouvements, comme au niveau national, mais qui sont restés souvent locaux. Donc, il y a eu un premier mouvement dans les années 20 qui s'appelle les Ignares. Ils s'appelaient eux-mêmes les Ignares parce qu'ils venaient de la classe de Fleurs, ils peignaient des Ignats. Et par ironie, ils sont appelés les Ignares, puisque c'était des peintres lyonnais, entre guillemets, mais qui sont des peintres fabuleux. Donc, Combes des Combes, par exemple, qui est un peintre qui n'est absolument pas à sa place, c'est un peintre majeur. Le Adrien Bas, qui, s'il n'était pas mort en 1925, aurait été peut-être un des plus grands peintres français, Et je montre des tableaux qui sont tout à fait dignes de ce que faisaient les Allemands à cette époque, dans l'expressionnisme et dans la façon de peindre. Voilà, y a vraiment des peintres comme Didier qui ne sont absolument pas à leur place dans l'histoire de l'art français. Ensuite, on a un peu plus tard, dans les années, au milieu des années 30, c'est un groupe alors, qui a eu un impact national, celui-là, qui s'appelle le groupe Témoignages, qui était un espèce de groupe surréaliste chrétien, si j'ose les appeler comme ça, et qui a quand même agrégé autour de lui des gens comme Manessier, Bissière, Le Moal, Berthold, et puis des Lyonnais, bien sûr, comme Louis Thomas. Et, voilà, et donc ça, on montre un certain nombre de tableaux de Le Moal et de Berthold importants, notamment certains qui ont été peints pendant l'occupation, puisque ces gens-là sont revenus à Lyon pendant l'occupation, puisque c'était la zone libre, et c'est assez intéressant comme tableau historique.
Et ça, par exemple, ces tableaux que je trouve très beaux, qui font penser un peu à l'école américaine.
Ah, voilà, alors ça, on est plus tard, on est dans les années 60, donc bah, c'est un peintre qui s'appelle Raymond Grandjean, qui a fait en fait la grande partie de sa vie des tableaux on va dire abstraits géométriques qui sont très très beaux, et à la fin de sa vie il s'est remis à la figuration, et il a fait beaucoup de tableaux comme ça de rue.
Il faut penser un peu à Hopper ou des gens comme ça.
Exactement, c'est des Hopper sans personnage. Il y a certainement une influence de Hopper, c'est très très beau, et ce tas de sable là est absolument remarquable. Et d'ailleurs, le Musée des Beaux-Arts avait fait une exposition Grandjean il y a quelques années, de ses débuts à la fin. Et notamment ce tableau, je l'avais prêté au Musée des Beaux-Arts. Ils avaient sorti un petit catalogue sur Grandjean. Donc, c'est un peintre très, très intéressant.
Alors, vous disiez au début que, quand vous étiez plus jeune, vous visitiez le musée, vous voyez tout un étage consacré à la peinture lyonnaise, oui. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Il y a de la peinture lyonnaise, malgré tout. On voit des salles de peinture lyonnaise 19e, il y a de la peinture 17e aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en réserve. Est-ce que le fait que... Donc, vous avez dit que le musée vous aidait beaucoup, qu'il y a forcément des échanges entre vous et le musée. Le fait de voir cette peinture lyonnaise que vous sortez, etc., est-ce que, quelque part, le musée voudrait peut-être remettre un peu plus en valeur l'école lyonnaise, à laquelle il avait consacré, par exemple, sur le 19e, une exposition il y a quelques années. Donc il n'oublie pas l'école lyonnaise, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a des choses qu'on aimerait voir et qu'on ne voit plus.
Alors, sur le 19e, c'est assez bien représenté. Enfin, sur le 17e et le 18e aussi, puisque...
C'est ce que je disais, il y a des salles, mais vous disiez qu'il y avait tout un étage. Mais, donc là, voilà. Les œuvres, forcément, elles ne sont plus là.
C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit Pêcheux, on voit Hennequin, on voit beaucoup de Stella au musée, on voit des Thomas Blanchet, des Créteil, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le 19e, on voit, il y a toute une salle qui est consacrée pratiquement à Fleury Richard, qui est un peintre extraordinaire. Bonnefond aussi, qui est bien représenté. Par contre, sur le 20e, il y a assez peu de choses, c'est vrai. Et c'est un petit peu dommage. Et sur le 21e, bon, les peintres importants de Lyon, comme Truffémus ou Fusaro, qui sont un petit peu les peintres Farde et Cotavoz, malheureusement, on ne les voit pas. Et surtout, moi, j'ai souvenir de fabuleux tableaux de Combes des Combes, que de temps en temps, ils sont réaccrochés. Le musée n'a certainement pas la place de mettre tous ces tableaux. Et il y a eu un choix, à un moment donné, d'un conservateur de privilégier l'accueil du public à la peinture régionale.
Alors là, par contre, je regarde, en même temps que vous parlez, je regarde votre collection sur mon iPhone, et c'est vrai que je revois le Christ de genoux qui est vraiment magnifique.
Oui.
C'est absolument, j'essaierai de mettre, je mettrai la photo également sur le site, c'est vraiment un tableau absolument extraordinaire.
Mais c'est un tableau pour vous, ça,
parce que c'est vrai que
c'est votre...
je collectionne le religieux 19e français, et c'est vrai que c'est un tableau que j'aimerais bien dans ma collection. Mais je trouve peut-être l'esquisse pour ce tableau, parce que c'est un grand tableau, si je ne m'abuse.
Bon, cette taille, il n'est pas si grand que ça.
Oui, mais il peut y avoir.
Mais vous l'avez vu plus grand dans votre imagination.
Peut-être dans mon imagination, c'est ça. Cette collection, donc, vous avez dit que vous allez développer, vous allez recruter, vous allez publier, vous allez la montrer. Par exemple, le Salon du Dessin, ça sera donc à Lyon. Pour les gens qui vont à Lyon, est-ce que vous avez déjà commencé à discuter éventuellement pour présenter une... Est-ce que vous savez que le Salon du Dessin présente tous les ans soit une collection privée, soit une collection publique, et ça serait bien finalement que cette collection soit vue à Paris également, ça serait une chose possible.
Certainement, oui. Mais c'est la première année. Ils nous connaissaient pas, donc
bien sûr, non, mais tout à fait, bien sûr.
Ils nous découvrent. Je pense que on verra ça pour les prochains numéros. C'est vrai qu'on travaille d'arrache-pied et c'est une exposition qu'on monte pour mi-mars. Aujourd'hui déjà on va la faire à Lyon avant d'aller à Paris, mais c'est vrai que si l'année prochaine ou dans quelques années le Salon du Dessin veut nous faire l'honneur de nous inviter, on aura beaucoup de plaisir à y aller.
Sur les tableaux que vous avez, comme j'ai dit, vous achetez beaucoup. Alors, vous avez dit qu'il y a des tableaux anciens, vous ne voulez pas en parler tout de suite, donc on n'en parlera pas, on va respecter votre discrétion pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a des tableaux, peut-être 19e, que vous avez achetés récemment et dont vous êtes... Quels sont les quelques tableaux 19e que vous avez achetés récemment? Est-ce que vous avez... C'est vrai que c'est toujours difficile quand on demande comme ça aux dévotés, surtout quand on a beaucoup de choses...
J'ai acheté une aquarelle extraordinaire de Grosbon, très fraîche, que j'expose d'ailleurs pour le dessin. J'ai acheté un certain nombre de Freinet sur le 19e. J'ai acheté beaucoup.
c'est compliqué, c'est trop compliqué.
C'est compliqué.
Et cette collection, alors, vous voulez la faire évoluer comment? C'est-à-dire que est-ce que vous allez continuer à acheter des Lyonnais tout le temps, ou est-ce que vous allez aussi vous diversifier comme vous avez commencé à le faire? Donc des sculptures, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous voyez déjà comment elle sera dans 15 ans ou dans 20 ans?
Oui, alors il y a deux sujets, enfin il y a deux périodes qui me titillent beaucoup, en fait. Donc le 17e, comme je disais, le 18e aussi. Et puis il y a une période où je suis très attentif, c'est tout le tournant 18e, 19e, tout ces néoclassique autour de Napoléon, de cette période-là, où je trouve qu'il y a une espèce de... on parlait de Gauffier, pas me tromper sur le prénom.
Louis Gauffier.
Louis Gauffier, bah voilà, c'est cette période-là, je la trouve magnifique. Les granets, alors j'ai acheté quelques beaux granets. Je les montrerai pas. Mais j'ai un très grand granet qui a un peu étonné les connaisseurs. Voilà, Constantin Dex, c'est des gens qui m'intéresse et que je dans cette direction-là, oui.
Et ça sera donc, vous avez créé donc la Tomaselli Collection, qui est une la structure, vous m'avez dit, c'est quelle structure ?
C'est une société, en fait.
Une société
anonyme. Ça.
Et à terme, alors évidemment, vous êtes un peu jeune pour prévoir ça, mais que vous votre
je vous remercie, mais pas si jeune que ça, en fait.
Bah, vous êtes jeune, en tout cas, mais on se pose toujours la question de savoir que deviendra une collection comme celle-ci. Est-ce que vous avez déjà des plans ou pas du tout ?
Pas du tout. Je ne me projette pas dans ma mort encore.
Non, mais bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est une question qui pourrait paraître indiscrète, mais non, je pense qu'il faut la poser aux collectionneurs, c'est normal. Enfin,
en tout cas,
Pierre Rosenberg la pose souvent. Mais c'est pas assez. Non, mais il peut y avoir tout simplement une pérennisation de votre vivant. C'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui font une fondation. Donc c'est plutôt ça que je pensais, c'est-à-dire fondation, avec la question de l'inaliénabilité, est-ce que vous interdisez de vendre des œuvres ou est-ce que vous pouvez vendre, ça vous est déjà arrivé de revendre des œuvres ?
Absolument, en fait il y a même une activité de vente, parce que comme vous l'avez dit j'achète beaucoup, et il y a un moment donné, j'ai à la fois un problème de place, parce que il faut stocker tout ça, les réserves sont pleines. Et puis on se rend compte au bout d'un moment que ce tableau il fait un peu double emploi avec tel autre, et donc c'est peut-être pas la peine de garder. Il y a un moment donné, au fil des années, j'ai acheté, je me suis entiché de tel peintre, il y a des peintres, j'ai peut-être 40 œuvres d'un peintre, je pourrais faire une exposition juste sur un peintre, et je me dis mais de toute façon j'arriverai jamais à les exposer tous. Un jour je ferai une expo un petit peu sur ce peintre ou un groupe de peintres, mais ça n'a pas de sens de les garder tous, d'autant plus que les œuvres que j'achète et le prix du marché a tendance un peu à s'envoler aujourd'hui. Si je veux continuer à acquérir, il y a un moment donné, il faut aussi que je cède des œuvres. Donc il m'arrive, oui, de vendre. D'ailleurs, je me rends compte que beaucoup de gens qui viennent à la collection sont à un moins grand niveau que moi, mais il y a un certain nombre de collectionneurs, de gens qui disent « Ah, mais j'aimerais bien acheter ce tableau. » Enfin, en général, ils ne sont pas à vendre, quoi. Mais ça peut arriver, et ça arrive. Mais c'est le but premier, c'est... Voilà, il m'arrive de vendre des tableaux. Oui.
Et autour de vous, donc à Lyon, est-ce qu'il y a d'autres collectionneurs ? Vous avez dit que vous avez un ami qui a donc ce Freinet, le tableau, la sculpture. Donc il y a d'autres collectionneurs de peinture lyonnaise ?
Oui. Alors en grand malade comme moi, on n'est pas nombreux, mais je connais au moins deux collectionneurs qui ont vraiment des collections absolument extraordinaires, notamment un grand collectionneur sur la période de Duclos, qui a des Duclos, Freinet, Orcel, et qui est très spécialiste de cette période-là. Je pense que je vous emmènerai si vous venez à Lyon.
Avec plaisir.
Parce qu'il a une collection stupéfiante, c'est un ami proche, et j'ai toujours du plaisir à aller chez lui, parce qu'il a vraiment des choses extraordinaires.
Et qu'est-ce que vous pensez du fait que Michel Descours, finalement, vous parliez de la rue Auguste Comte, il y a de moins en moins de marchés de l'art en fait, à Lyon. Comme beaucoup en province, malheureusement, c'est un peu dommage pour Lyon, ce qui est bien pour Paris, parce que ce que Lyon a perdu avec Michel Descours, Paris l'a gagné. Finalement, pour vous, ça ne change pas grand-chose, parce que vous pouvez acheter aussi bien à Lyon qu'à Paris, ou à Paris qu'à Lyon.
Oui, moi j'achète là où sont les tableaux. Je sais pas. Alors c'est vrai que c'est plus pratique quand c'est à Lyon, on fait un tour de voiture et puis on vient voir. Moi je remarque qu'il y a de plus en plus de marchands parisiens qui commencent à connaître la peinture lyonnaise et qui la vendent à Paris. Il y a des prix parisiens qui sont un peu plus élevés, les prix lyonnais. Mais oui, il y a moins de marchands. Ça, c'est clair qu'il y a eu quelques décès, malheureusement. Il y a eu des gens qui ont arrêté leur activité. Michel Descours, qui est monté à Paris, qui a monté une belle galerie. Et voilà.
Est-ce qu'il y a des points sur lesquels nous des sujets sur, dont on ne nous a pas parlé, des peintres qu'on nous aurions oubliés ou...
Alors, il y en a tellement. Alors, en fait, il y a trois types de peintres dans la collection. Il y a, on va dire, les grandes stars qui sont dans tous les musées, comme on parlait de Stella, Blanchet...
Flandrin,
Orcel, alors qui est un peu moins connu, mais quand même...
Orcel est un peintre très important, effectivement, un peu moins connu que les autres, vraiment un peintre majeur.
Mais c'est un peintre majeur. Jean Puy aussi, qui est un peintre de Rouen. Alors, c'est pas le Lyon-Lyon, mais il a fait l'école des Beaux-Arts de Lyon.
Vous avez quand même une conception de Lyon qui est très étendue, finalement. C'est bien. Enfin, c'est
oui, alors, c'est soit des peintres qui sont nés à Lyon et qui ont fait l'école des Beaux-Arts de Lyon. Puis souvent, les grandes stars, ils sont partis, comme Piment, par exemple. Piment, que j'adore, il est né à Lyon, il est mort à Lyon, mais il a fait toute sa carrière au Portugal, en Espagne, dans toutes les cours d'Europe. Il y a les peintres qui sont venus à Lyon. Thomas Blanchet, il est venu à Lyon. Il y a un certain nombre de gens, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de peintres qui descendaient en Italie et qui se sont arrêtés à Lyon. Certains
Poussin, par exemple.
Comme Poussin, qui est resté 2 ans.
Avec l'exposition actuelle de la mort de Queneau, ce sublime tableau acheté par le musée il y a quelques années.
Absolument. Le père de Stella était...
François Stella.
Voilà. Ouais. Et venu à Lyon et s'est arrêté à Lyon. Et Jacques Stella est né à Lyon. Il est né à Lyon. Il a commencé sa carrière à Lyon. Mais aussi, par exemple, Van der Kamel, qui est un élève de Van Goyen et qui est surtout connu pour ses marines. Il s'est arrêté à Lyon, il a épousé une Lyonnaise, il est parti faire toute une partie de sa carrière en Italie, puis il est revenu à Lyon. Et d'ailleurs, on vient faire l'acquisition d'un tableau, puisqu'on parlait des nouvelles acquisitions, d'une paire de tableaux de Van der Kamel énormes, qui sont très étonnants, puisque ce sont des natures mortes. Et qui sont signés Van der Kamel, Fekit Luc Dunhomme. Donc il les a fait à Lyon et voilà, il a été exposé d'ailleurs à Fine Art. Donc il y a ces peintres qui sont venus à Lyon. Alors, on en trouve beaucoup, par exemple dans le 20e, il y a Jim Léon. Jim Léon que tout le monde connaît sans le connaître, puisque Jim Léon c'est celui qui a fait les décors de Peau d'Âne, qui a fait les pochettes des Beatles, etc. Enfin voilà, et qui a fini sa carrière à Lyon, qui était anglais, et c'est un peintre très important. Il y a Jean Rennes, qui était un Belge du groupe Cobra, qui est venu à Lyon finir sa carrière. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont dans la collection parce qu'ils sont relatifs à Lyon. Alors pour revenir à ce que je disais au début, il y a trois types de peintres. Ceux qui ont fait une carrière, on va dire, nationale ou internationale. Il y a ceux qui ont fait une carrière régionale. Je parlais de Combet-Descombes, qui, en dehors de Lyon, personne ne connaît. Ou Adrien Bas, mais qui sont des peintres très importants. Même Freinet, en dehors de Lyon, c'est un peintre majeur. Beaucoup d'historiens de l'art, aujourd'hui, disent que c'est peut-être un des plus grands peintres du 19e. Donc ça, on va le faire découvrir. On est très fiers de faire ressusciter ces peintres. Des peintres dont on a tout oublié. Alors, vous parliez de Domer,
Bechot, je pense, Jean-Baptiste Bechot, peintre. J'ai un dessin, un grand dessin, très beau, hein, Saint-Michel terrassant le démon, c'est un Lyonnais, il a peint dans les églises, mais alors, je crois pas que je connaisse. Si, j'ai vu chez Michel Descours,
il y en avait un.
Il y en avait un, voilà.
Oui. Mais il y a le grand tableau des deux amis de Aimonet. Personne ne connaît plus Aimonet, alors que ce tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tableau, c'était deux femmes, c'est un très grand tableau avec deux femmes très proches, on dirait dans un décor un peu orientaliste. On voit que ce gars avait une maîtrise incroyable de son métier. J'ai pu retrouver finalement de la documentation sur lui, et en 1900 on disait que c'était le peintre du moment, etc., etc. Puis aujourd'hui, pour trouver de la doc, et je connais que deux tableaux, le mien et un qui était au musée de Brou, justement, de ce peintre. Donc on découvre des peintres qui ont été très importants. Bon, il y a des peintres comme Lacuria.
Oui, je connais
peut-être.
Je connais ça.
En fait, ils sont plusieurs dans la famille.
Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs. On voit quand dans les correspondances des peintres de l'époque que tout le monde parle de lui. Mais je vais pouvoir en montrer dans l'exposé des dessins. mais on ne trouve rien. Enfin, on en voit exposer nulle part. Voilà. Et donc, c'est des peintres qui sont très intéressants, mais dont même à Lyon, on a un peu oublié qui ils étaient, leur histoire, et c'est passionnant. Et moi, je m'intéresse, on en parlait un petit peu avant l'interview, mais plus aux œuvres qu'aux noms. C'est-à-dire que je préfère avoir un tableau même anonyme. D'ailleurs, le grand tableau de religieux à côté...
C'est la pêche miraculeuse, si je ne me trompe pas. Ou
c'est... Non, c'est Saint-Jus qui embarque à...
Alors, je l'avais sous les yeux il y a un instant. Évidemment, pour les lecteurs, ça ne dira pas grand-chose, mais c'est... oui, c'est ça. C'est le... c'est,
Saint-Jus embarquant à Marseille.
Saint-Jus embarquant à Marseille, oui, ouais. C'est ça.
Alors, bon, déjà, le thème, on l'a trouvé comme ça, mais on ne sait pas qui c'est. Ouais. On voit que ça pourrait être Flandrin, ça pourrait être autour de ça, mais on ne sait pas qui c'est. Mais c'est un tableau extraordinaire.
Ouais.
Voilà, et ça, c'est vraiment un des critères de la collection.
Qui est probablement lyonnais, mais il peut toujours y avoir un doute, malgré tout.
Oui, on ne sait pas. Et par contre, il y a des éléments très caractéristiques dans ce tableau qui devraient permettre à terme de l'attribuer. Ouais. C'est comme le Blanchet, hein, quand je l'ai acheté, la grande scène de Thomas Blanchet, qui aujourd'hui, j'ai eu la chance, comme il y a eu l'exposition Poussin à Lyon, en même temps que l'inauguration de la collection, tous les grands experts du 17e sont venus voir la collection. On a Rosenberg qui vient la semaine prochaine. Et ils sont tous... alors là, ils ont confirmé...
C'est un tableau, j'ai le tableau, je me rappelle de ce tableau, qui est anonyme, mais pas vraiment, en fait.
Il ne l'est plus, parce qu'en fait...
Vous aviez prononcé le nom de Blanchet, je me rappelle, quand j'étais...
Oui, sur le catalogue et sur le cartel de départ, c'était marqué « probablement Blanchet ».
C'est ça, voilà.
Et on a enlevé le « probablement », puisqu'il a été attribué de façon définitive... Alors, il y a, sans citer de nom de grands experts qui sont arrivés, on dit « Oh là, quel Blanchet extraordinaire !» Je dis « Vous êtes sûr ?» Il me dit « Il n'y a pas besoin de... » c'est un chef-d'œuvre, en fait.
Vous pouvez le anonyme, probablement Blanchet la scène, c'est ça ?
Oui.
Mais vous pouvez dire le nom de l'expert. Enfin, c'est gênant si on le dit.
Puisque... je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien les usages.
Écoutez, s'il attribue le tableau, etc., moi, je pense que...
Monsieur Lavessière, par exemple.
Monsieur Lavessière, oui, bien sûr, qui est un grand connaisseur.
Qui connaît bien cette période-là et qui avait fait l'exposition.
Non, il n'y a pas de honte à dire que Sylvain Lavessière a attribué un tableau, mais je pense qu'il faut le dire.
Monsieur Bréjon aussi est passé, il a vu.
Avec de tels avis, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes sur.
Monsieur Rosenberg vient la semaine prochaine et je pense qu'il.
Le tableau est magnifique, hein, je l'ai sous les yeux.
Ah, mais il est extraordinaire.
Il m'avait frappé, effectivement.
Oui.
Mais vous avez raison, c'est le tableau qui est important avant le nom, mais c'est mieux si on sait le nom.
C'est mieux si on sait le nom parce que ça rattache à une histoire. Parce que,
exactement.
Ce qui est passionnant dans une collection, c'est qu'en fait, on rattache un peintre à une histoire globale, donc avec qui. Il a travaillé, qui ont été ses élèves, où est-ce qu'il a travaillé, quelles sont ses influences. Donc ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Puis après, il y a l'histoire du tableau elle-même. Et pourquoi il a peint ce tableau, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il signifie, quelle est son histoire, qu'il a eu, etc. Donc c'est un peu, je dirais pas un détective, mais c'est tout à fait passionnant de dire, ah mais alors, tel peintre, vous voyez, il y a des peintres... comme Jacques Martin, qui est un peintre de fleurs et de nature morte lyonnais.
Qui a quelques homonymes célèbres, voilà. Un dessinateur de bande dessinée, un animateur. c'est un nom difficile
à oublier. Mais, et qui a été le maître d'Émilie Charmy, qui est une peintre qui n'est pas du tout à sa place, une peintre femme, et que j'adore, et qui d'ailleurs est montée à Paris, et a été très proche, enfin, quand on dit très proche, de Camoens, puisqu'ils ont peint ensemble et ils ont fait plus que peindre, et qui jusqu'à avant-guerre a eu son heure de gloire, et puis après-guerre est un peu disparu. Mais on voit qu'elle a été influencée par lui, mais elle, en montant à Paris, elle a vu la modernité de ce qui se passait dans le mouvement... autour de Matisse, et je montre un tableau de Jacques Martin où lui-même subit l'influence de son élève. Donc c'est toujours intéressant de voir ces influences croisées, comment le maître influence l'élève, mais comment aussi, des fois, l'élève influence le maître et le rajeunit dans son approche.
Eh bien, nous conclurons là-dessus. Merci, Jérôme Tomaselli, d'être venu à notre micro. pour parler avec passion de cette école lyonnaise et de votre collection. Et je pense qu'on a beaucoup de, on aura beaucoup de, d'occasions de se reparler, de reparler de la collection Tomaselli sur la Tribune de l'Art. Merci beaucoup.
Ah bah je vous remercie de m'avoir invité et merci de cette interview.